Oscar Huguenin, Nos vieilles gens. L'apprenti tailleur. Chapitre 13. Le matin du nouvel an, au moment où nous allions partir pour le temple, par un beau temps froid et sec, nous vîmes arriver André Pernoux, proprement vêtu de pièces de ma garde-robe. Sous son bras, il portait un paquet carré, enveloppé d'un des grands mouchoirs à carreaux du père Soubise. Je savais ce que venait faire André et je connaissais le contenu du paquet. Il ôta poliment son bonnet en entrant et salua sans gaucherie ni fausse honte. Un peu plus de rougeur aux pommettes qu'on ne lui envoyait d'ordinaire prouvait seulement qu'il était ému et intimidé. « Je venais, » dit-il simplement, « vous souhaiter la bonne année, monsieur et madame, à Charles-Auguste aussi, et à tout le monde. » conclut-il en regardant ma tante Julie, qu'il ne savait comment appeler. « Et puis, je voulais vous remercier mille fois de... pour... » Ne sachant comment sortir de sa phrase, peut-être longuement préparée, mais dont il ne retrouvait plus la fin, André, rouge comme une pivoine, se mit à déballer fébrilement son paquet, interrompu dans cette occupation par les poignées de main accompagnées de vœux de nouvelle année qu'il recevait de nous tous. Le mouchoir enlevé laissa voir un beau coffret de bois dur, ciselé sur ses côtés et sur le couvercle. « Je l'avais fait pour vous, madame, » dit André en le présentant à ma mère, qui, d'abord toute stupéfaite, avait maintenant les yeux pleins de larmes et dut se moucher bruyamment avant de pouvoir répondre quoi que ce fût. « Mais, mon garçon, quelle idée en as-tu eue ? Tu n'aurais pas dû. Et c'est toi qui as fait ça ? Non, je n'en reviens pas. » Elle avait pris la cassette que mon père et elle examinaient émerveillés, tandis que la tante se tenait en arrière, attendant modestement son tour. Moi, je riais sous cap, en poussant du coude André, et lui chuchotant derrière ma main. « Hein, tu vois si je l'ai dit ?»« Regarde-moi donc ça, Henriette, » disait mon père. « Ton nom est sur le couvert. Un H et un V au milieu de ces olives et de ces pipes. » Les olives sont des jonquilles et les pipes des narcisses. Ça, par exemple, c'est supérieurement travaillé. Et sur le devant, ces chauffiers de noisettes avec leurs feuilles. Ces grappes de noisettes avec leurs feuilles. À côté, c'est des alizés. Et ici, des bouts d'ertchin. Les bouts d'ertchin sont des myrtilles des marais. Non, ma parole, si j'ai jamais rien vu de pareil. La finesse du travail, l'exactitude de la représentation, était en effet remarquable. Et un fin horloger, comme mon père, était homme à apprécier une pareille œuvre. Il se tourna vers André et lui tapant cordialement sur l'épaule. « Quand le bon Dieu vous met un talent doré comme celui-là au bout des doigts, ce serait ne rien valoir que de ne pas le mettre à profit. Rappelle-toi ça, mon garçon, et aussi qu'il n'en faut pas être fier. » Pas plus qu'un pauvre à qui on aurait donné un écu neuf et qui se redresserait comme un coq en se croyant plus que celui qui n'a reçu qu'un batz. Il y a un passage que vous apprenez dans le catéchisme et qui le dit mieux que moi. Comment va-t-il déjà ? André baissa la tête assez confus. Il n'était pas assez fort sur le catéchisme et les passages, pauvre garçon. Moi, je savais le passage en question, mais... obéissant dans cette circonstance à un sentiment généreux, ce qui n'était pas souvent mon cas, je gardais le silence pour ne pas mortifier mon camarade. Ce fut ma tante qui commença tout doucement par derrière. « Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ?»« Et si tu l'as reçu, » continua ma mère d'un ton plus délibéré, « pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu ?» Mon père inclina la tête avec respect. Puis, retournant la cassette dans ses mains et examinant de près les charnières de laiton. Par exemple, André, je serais bien surpris si c'était toi qui les avais faites, ces charnières. Il t'aurait fallu les outils, la matière. Ça vient d'un horloger, je le garantis. André fit de la tête un signe affirmatif et me montra du doigt en souriant. C'est lui qui m'a offert de les fabriquer, dit-il. Le regard brillant. Je ne savais au monde comment m'en tirer. N'est-ce pas qu'elles sont joliment réussies, et les vices aussi? Mes parents me regardèrent d'un air heureux, et ma tante Julie vint doucement me mettre la main sur l'épaule. J'avais en effet exécuté ce travail en cachette, avec un morceau de laiton, de rebut et de vieilles vis dénichées dans le compartiment de la layette d'établi, que nous appelions le tiroir de la bourdifaille. Ce n'était pas allé tout seul, je vous en réponds. Plus d'une fois, j'avais failli tout abandonner. Mais l'amour-propre, et aussi, j'ose le dire, un sentiment plus noble et plus désintéressé, m'avait fait persévérer et finalement réussir. Il y a un ressort pour ouvrir, dit André pressant sur un bouton de laiton, qui était aussi mon œuvre, et soulevant à demi le couvercle. Voyez-vous comme ça joue bien? Et il se mit à fermer et ouvrir alternativement la cassette. Ce mécanisme, des plus élémentaires, bien entendu, que j'avais copié sur un coffret de ma mère, m'avait donné plus de mal encore que les charnières, et les matériaux m'en avaient été fournis par le fameux tiroir où l'on trouvait tout au monde. « Tiens, tiens !» murmurait mon père qui avait repris la cassette pour en étudier la fermeture. « Il ne s'en est pas tant mal tiré, ce pommeau. Qu'en dis-tu, Henriette ?» Ma mère hocha la tête sans répondre autrement. Elle ne voulait pas me donner de l'orgueil, mais je voyais bien qu'elle était contente. « Et ceci, qu'est-ce que c'est ?» Mon père avait sorti du petit meuble un paquet enveloppé de papier gris. André frottait doucement l'une dans l'autre ses mains aux longs doigts flexibles. « C'est pour vous, monsieur Vieumier, » dit André, la figure épanouie, mais rouge jusqu'aux oreilles. « Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je ne savais que faire. Charles-Auguste m'a dit que vous prisiez, alors j'ai pensé qu'une tabatière... » C'était une tabatière, en effet, que recélait l'enveloppe de papier gris. Mais une tabatière comme aucun priseur n'en possédait certainement à la Sagne, ni probablement ailleurs. Elle figurait un volume assez pareil au psaume à quatre parties de mon père, et la ressemblance était complétée par un fermoir en cuivre qui en assujettissait le couvercle. Sur celui-ci, les initiales A.V. se détachaient en relief, au milieu d'une guirlande de feuillage. Le dos du pseudo-volume portait pour titre le mot « tabac », gravé en gros caractères, et comme sous-titre, en plus petites lettres, « Pétunicosiane », ancienne appellation qu'avait fournie à André l'encyclopédique et précieux spectacle de la nature. Ma part de collaboration dans ce travail se réduisait à bien peu de choses. Je ne pouvais revendiquer l'honneur d'avoir fabriqué le fermoir de cuivre. Il provenait d'un vieux bouquin, au texte latin, auquel nous n'aurions rien compris lors même qu'il n'eût pas été rongé des souris et que le patron d'André nous avait abandonné pour le dépouiller de sa garniture. Soigneusement fourbi, ce fermoir avait encore fort bon air. Quant aux charnières du couvercle, elles étaient d'une simplicité enfantine. Deux chevilles d'acier formant pivot en avaient fait les frais. Je renonce à dépeindre l'effet que produisit sur mes parents la touchante affection d'André. Tout ce que je puis dire, c'est que les remerciements émus, les félicitations chaleureuses qui furent adressées à mon camarade, me firent autant plaisir qu'à lui-même. Décidément, mon protégé, car je le considérais toujours comme tel, mon protégé me faisait honneur. J'en étais aussi fier qu'un inventeur peut l'être de l'œuvre qu'il a créée. D'ailleurs, je l'aimais réellement, ce garçon si reconnaissant, si affectueux, toujours prêt à s'effacer et à se mettre au service d'autrui. Les compliments qu'on lui faisait le mettaient à la gêne. Aussi chercha-t-il à y couper court en me disant gaiement « À toi, Charles-Auguste, je n'ai rien à te donner. Je n'aurais su au monde quoi. Si tu avais eu 4 ou 5 ans de plus, je t'aurais taillé une belle pipe. Mais il n'y a pas à dire, tu n'as pas d'âge à en user. Il te faut patienter. » Et, en attendant, André me donna une solide poignée de main que je lui rendis de bon cœur. On se doutera bien que les créations de l'ex-apprenti tailleur ne furent pas mises sous le boisseau. et que mes parents se firent un devoir de parler du talent extraordinaire dont André venait de fournir la preuve. Aussi, dès ce premier jour de l'an, y eut-il chez nous une véritable procession de curieux, voulant s'assurer par leurs yeux qu'on ne leur en faisait pas à croire. L'oncle Philibert fut l'un des premiers, bien entendu. On vit arriver une délégation de la Chambre de Charité, M. le greffier en tête, nouveau Thomas qui, sans avoir vu de leurs yeux et touché de leurs mains, ne pouvait ajouter foi à ce fait sans précédent d'un pauvre dont on avait voulu faire un tailleur et qui se révélait un artiste. Tous étaient confondus et n'en revenaient pas d'admiration. Et vous dites qu'il a fait ça tout seul, sans qu'on lui montre ?
Ah, ça ! Répétait ma mère impatientée. Qui voudriez-vous qu'il lui ait montré ? Ce n'est pas ce vilain sire de Blum, je suppose.
Pour ce qui est de Charles Aimé Gentil, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de lui apprendre à pousser le rabot. Et ce n'est pas bien sorcier. Non, je vous dis, c'est un don de nature, un don que le bon Dieu lui a fait, pour mieux dire. Et le plus beau, avec ça, c'est que ce pauvre garçon n'en est pas fier le moins du monde, et qu'il a autre chose que du talent, que, à savoir du cœur et de l'escient.
Monsieur le greffier, indigne homme qui portait sur lui la plus grosse part des soucis du ménage communal, se frottait les mains, la mine rayonnante.
Eh bien, résuma-t-il en s'adressant à mon père et à ses collègues de la Chambre de Charité, en voilà un qui va se tirer d'affaire avec honneur, Dieu soit loué. Il y en a assez, las, montés, qui tournent mal, avec toute la peine qu'on se donne pour les mettre sur le bon chemin. Oui, André Pernoux, la pupille de la Chambre de Charité, était sur le bon chemin, pour parler comme le greffier. Et cela ne signifiait pas seulement dans la pensée de celui-ci, bien entendu, le chemin du succès, mais celui du devoir. Sur ce dernier chemin-là, mon ex-protégé devint mon guide, m'aida à marcher, me ramena plus d'une fois par son exemple et ses avertissements. Il fut toujours pour moi cet ami fidèle et sûr qui est une bénédiction du ciel et l'une des plus pures joies de ce pauvre monde. Est-il besoin de dire que la réputation d'artiste d'André Pernoux fut bientôt faite ? De notre tranquille vallée, elle se répandit d'abord au Locle et à la Chaux-de-Fonds, puis franchit la montagne et parvint à Neuchâtel, où nombre d'amateurs généreux se disputèrent à l'envi les petites merveilles de goût qu'enfantaient les doigts habiles du jeune sculpteur, guidé par sa riche imagination et son étude attentive de la nature. André demeura fidèle au vieillard qu'il avait recueilli. Puis vint le jour dont l'ex-garde suisse parlait parfois en le nommant « l'appel final ». Et le vieux Soubise, rassasié de jour, s'en fut en murmurant « présent ».
« Un rude brave homme, le père Soubise », me disait Nestor Tissot au retour de l'enterrement. « Dommage qu'il sacrait comme un païen. » Moi, par exemple, tu sais, dans le temps, j'en faisais quasi pire que lui.
Mais ça a été fini, bouclé net, du jour où ton oncle Philibert, du coin, tu te rappelles, m'a fait cadeau d'un crate de ses fameuses pommes de terre.
Un crate est un panier de campagne grossièrement tressé.
Matin, qu'elles étaient bonnes. C'est-à-dire, elles le sont toujours, parce qu'elles ont fait des petits depuis le temps. Il faut voir les champs que nous en avons sous les sagnes. Nom de b... ne fais pas attention, la langue m'a tourné. Ça peut arriver à tout le monde. Qui es-toi, Charles-Auguste ?
Si c'était mon histoire que j'ai voulu raconter, je vous dirais qu'avec le temps, j'ai fini par devenir un horloger passable, sans arriver, toutefois, à la perfection de travail de mon père. Décidément, mes doigts étaient trop carrés par le bout, au lieu de finir en pointe comme les siens et ceux d'André. Je n'aimais pas que l'ouvrage tirât en longueur et j'étais beaucoup moins soigneux qu'expéditif, méthode qui n'était ni dans les goûts ni dans les habitudes de mon père. Après avoir vainement lutté contre cette disposition de son fils et élève, il en avait pris philosophiquement son parti, en voyant que moi-même,
j'étais impuissant à me corriger de ce travers. Je l'entendis un soir dire à ma mère à la cuisine.
Chacun son genre, en fin de compte. Charles-Auguste ne fera jamais que du bon courant.
Oh, de la besogne, c'est comme tu dis, il en abat tant et plus.
Au jour d'aujourd'hui, c'est assez la mode.
De mon temps, l'ouvrage se faisait moins vite.
Seulement, il n'y manquait pas une des herbes de la Saint-Jean, et c'était de l'ouvrage garanti pour durer des années et des années. À en juger par la réplique de ma mère, je devinai qu'elle devait hausser les épaules avec une certaine impatience.
Eh bien, mettons, Charles-Auguste ne fignole pas son ouvrage comme toi, mais avec son habileté, tu conviendras qu'il gagne.
Autant que son père, c'est la pure vérité, Henriette. On ne pourrait pas mieux dire.
Prenons une prise par là-dessus et remercions le bon Dieu d'avoir un garçon comme le nôtre.
Voilà qui prouve qu'en écoutant aux portes, on n'entend pas toujours dire que du mal de soi. Il me serait assez agréable de terminer ces souvenirs par un mot aussi flatteur pour mon amour-propre. Mais ce serait prendre congé avec trop de sans-façon des divers personnages que j'ai mis en scène dans ces pages. Aussi bien dois-je signaler le fait que les deux habillements de coupe moderne que mon père et moi devions au ferme vouloir de ma mère et que l'habileté du causandier de Marmoux furent le couronnement de la carrière de Félix-Henri Peter, encore qu'il eût dû se faire violence pour sacrifier à la nouvelle mode, car ce fut la dernière œuvre que taillèrent ses ciseaux et que cousit son aiguille infatigable. Le lendemain du nouvel an, l'oncle Philibert entra chez nous l'air plus grave qu'à l'ordinaire. « Savez-vous ce que l'ancien Mathilde vient de me dire ? Félix-Henri Peter est en repos. Ce matin, on l'a trouvé mort dans son lit. » Et comme nous le regardions tout saisis, il ajouta en branlant sa tête grise, « C'est une belle mort, au moins quand on est préparé. Et tel que nous le connaissions, Félix-Henri devait l'être. Le bon Dieu nous fasse la grâce à tous, tant que nous sommes, aux jeunes comme aux vieux, de penser souvent à notre fin dernière et de nous gouverner en conséquence. » Brave oncle Philibert, si quelqu'un dirigeait ses actions d'après ce principe-là, c'était bien lui, car il pratiquait fidèlement la recommandation du maître « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il ne se départit jamais jusqu'à la fin envers les deux êtres déshérités de la nature qu'il avait recueillis, de cette indulgence, de ce support inaltérable que ma mère qualifiait de faiblesse. Toujours, il fut le parent dévoué, le voisin serviable que caractérisait le mot favori avec lequel il ne manquait jamais d'accueillir tout appel à son obligeance,
à ton 500 grand service.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Je suis persuadée que s'il eût été encore de ce monde en 1793, lors des démêlés entre organistes et jacobins, l'oncle Philibert, d'accord en cela avec mon père, aurait dit des patriotes du Locle et de la Chaux-de-Fonds qui dansaient la carmagnole autour des arbres de liberté.
Montez, qu'est-ce que vous voulez? C'est leur idée. Pourquoi ne la trouverait-il pas aussi bonne que la nôtre? Il faut être de bon compte. Les Loclois et les Chauliers sont plus proches de la France que nous. Comment ne s'en sentirait-il pas?
Oui, c'était là le raisonnement de mon digne père, en ces temps troublés où les Montagnons vivaient en frères ennemis, arborant, les uns le bonnet rouge en criant « Vive la liberté !» les autres, la cocarde orange en ripostant « À bas les Jacobins !» Et quand il n'y eut plus moyen de nous retenir, nous autres jeunes de la Sagne, et de nous empêcher de partir en armes pour aller sommer les chaudefonniers d'abattre leurs arbres de liberté, mon père nous dit encore devant la maison de ville, de son ton conciliant « Allez tout doucement, garçon. Topianet, Topianet, ne lâchez pas des coups de fusil aux chauliers pour commencer, mais tâchez de les raisonner. Ce n'est pas à des sauvages que vous avez affaire, ni à des brigands, rappelez-vous ça, mais à des gens du pays, finalement, dévoyés, si vous voulez, mais qu'il faut remettre sur le bon chemin. C'est avec du miel qu'on prend les mouches, ce n'est pas avec du vinaigre. » Ces sages conseils de mon père furent suivis,
et tout le monde s'en trouva bien. Au lieu d'envahir la Chaux-de-Fonds par la Combe, baïonnette au mousquet, comme une bande de soubards qui va mettre une place à sac, nous nous postâmes au creux des olives, d'où nous envoyâmes un parlementaire raisonner les patriotes, comme disait mon père. Et savez-vous qui fut choisi pour remplir cet office délicat, où il fallait autant de calme que de bon sens? Nul autre que ce bon enfant de Nestor Tissot, le filleul de mon père. Il paraît que la harangue mêlée de patois et de français qu'il fit au porteur de bonnet rouge était si impayable, si bonhomique, qu'ils en furent désarmés et rentrèrent dans le calme. Nolis in bueb. Nous y sommes, garçons. Nous criait de loin le gros Nestor, la mine épanouie et agitant le mouchoir blanc qu'il avait fixé au bout d'une baguette de fusil pour remplir son office de parlementaire. Stéruge n'essant pas des manos, tempori. Il m'en l'a si près de j'ai. Ces rouges ne sont pas des croque-mitaines, tout de même. Ils m'ont laissé parler. Tenez, les voilà qui mettent en bas leurs arbres de liberté avec sa colle rouge au bout. Le bonnet rouge. Il y en avait bien un, et le gros Nestor se mit à rire, un qui voulait me mettre des bâtons dans les roues, qui disait aux autres de ne pas m'écouter. Celui-là, nom de matin, je lui ai rivé son clou tout de suite. Savez-vous qui c'était? Un que vous connaissez, pardi. Toi surtout, André. Ton gueux de Blum. Ce fut une huée générale. André seul ne dit rien. Il haussa les épaules en me regardant. Ce que je traduisis par « ça ne m'étonne rien du tout ». Pardi. Oui, ce poète moineau de Blum. Mais rudement déplumé, par exemple, continua Nestor. Toi, que je lui ai dit sous le nez, commence par venir payer tes dettes à la Sagne, espèce de juif. Les affaires du pays ne regardent pas des Allemands de ta sorte. Et je vous réponds, ajouta Nestor en clignant de l'œil, que les chauliers ont fait une belle risée. Vous pouvez compter qu'à la Chaux, le gueux ne paye pas autrement qu'à la Sagne. En monnaie de singe. Il fallait le voir s'enfiler par derrière comme une serpent. Pouette bête, va. Une fois qu'on se fut remis en route pour revenir à la Sagne, je remarquai qu'André, son mousquet à l'épaule, cheminait silencieux. Tout ça, ça t'a fait repenser au soir où Blum t'a mis dehors, lui dis-je tout bas. Il me regarda affectueusement. Oui, mais je ne lui en veux plus. Bien le contraire. S'il avait été moins mauvais avec moi, je serais restée chez lui. Tu ne m'aurais pas ramassé comme tu as fait pour me mener chez mon brave vieux monsieur gentil. Vous n'auriez pas eu l'occasion de prendre soin de moi, et je n'aurais pas eu celle de suivre mon goût pour travailler le bois. Le bon Dieu soit loué d'avoir si bien arrangé pour mon bien. Il souleva son tricorne avec respect, et j'en fis autant.